Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct d'interaction avec vous et notre invitée. Elle est journaliste, productrice. Vous l'avez découvert au début des années 2000, c'était sur la chaîne LCI à l'époque où elle présentait les journaux télévisés. Il y a aussi l'époque Canal+, et enfin M6 où elle a présenté il y a quelques années le magazine Zone Interdite. Depuis presque 10 ans quand même, elle n'est pas sortie des radars. Elle a quitté le petit écran, en tout cas l'intérieur du petit écran, pour travailler derrière. Elle a quitté donc les projecteurs pour produire de nombreux documentaires sur les chaînes de télévision. Elle vient nous voir aujourd'hui sur ce plateau. C'est pour nous parler justement d'un nouveau documentaire consacré aux violences faites aux femmes. Mélissa Thériault, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz Télé, dans ce documentaire appelé « Réparer les vivantes », c'est son titre, diffusé à 20h30 sur LCP ce soir, un prime time. Pour ce documentaire, vous êtes en immersion chez Women Safe, qui est une structure qui accompagne et accueille surtout les femmes victimes de violences. Ça peut être de la part d'un conjoint, mais pas uniquement, on va en parler. Ça peut être également un autre membre de la famille, un fils par exemple. Comment cette association aide-t-elle concrètement les femmes? Les femmes vont d'abord porter plainte, puis ensuite elles se dirigent vers cette association, ou ça peut être un lieu d'accueil tout de suite après une agression de la part d'un membre d'une famille?
À n'importe quel moment du parcours, une femme en souffrance peut pousser la porte de cette association et sera reçue de façon totalement gratuite, anonyme aussi si elle le souhaite, et on l'aidera à porter plainte si elle le souhaite. Certaines ne le souhaitent pas, à être réparées sur le plan psychologique, accompagnées sur le plan juridique, participer à des groupes de parole. Donc c'est totalement pluridisciplinaire avec des personnes de talent, vraiment avec une grande expérience. Et ils sont pionniers dans cette prise en charge et je l'ai trouvé injustement invisible. On connaît d'autres fonctionnements d'associations qui font un travail remarquable, je le souligne, mais qui ont des subventions, des aides qui existent, dont la presse se fait écho. Et il faut s'en réjouir aussi. Mais je trouvais injuste que cette association qui a formé énormément de professionnels ne soit pas...
Dans l'inconnu,
oui, tout à fait. Et assez méconnue du grand public et puis de toutes celles qui ont besoin aussi de connaître cette prise en charge.
Et ces gens-là, entre guillemets, c'est des gens qui viennent d'où? C'est des civils?
Oui. Alors, il y a autant... Il y a la moitié, on va dire, de salariés que de bénévoles. Donc aujourd'hui, c'est quand même
une structure permanente,
une association permanente où on a une juriste, une psychologue, Frédéric Martz, qui a fondé cette association, qui donc sont continuellement, évidemment, à la fois salariés et investis du matin au soir. Mais on a aussi de nombreuses bénévoles, infirmières, psychomotriciennes, aides-soignantes, gynécologues aussi, qui donnent de leur temps. Beaucoup de femmes. Le dévouement est une qualité qui n'est pas encore assez partagée, me semble-t-il. Et qui donnent aussi de leur temps et de leur expérience aux victimes.
Et elle est située où, cette association?
À Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Donc, on parle beaucoup de Seine-Saint-Denis, où, vous le savez, il y a beaucoup de moyens qui sont consacrés à la protection des plus fragiles, et il faut s'en réjouir, mais on est souvent sur les mêmes départements qui concentrent beaucoup de moyens. Les Yvelines, qui est un département plus riche, si vous regardez la politique d'aide à ces violences-là, à ces femmes-là, ce sont des aides qui sont très faibles. Donc il faut aussi rendre visible leur travail pour que les privés et les pouvoirs publics vraiment maintiennent et continuent de les aider parce que c'est vital.
On a vu les chiffres récemment, 10% d'augmentation des violences faites aux femmes en 2020. On va y revenir tout à l'heure. Nous sommes en direct sur Figaro Live avec Mélissa Thériault. N'hésitez pas donc à réagir, on le voyait. Vos questions qui sont reliées par Sarah Lecoeuvre qui est avec nous sur ce plateau. Dites-nous tout. En attendant, on retrouve tout de suite justement Sarah Lecoeuvre pour les news médias du jour. Bonjour Sarah.
Bonjour Philippe, bonjour Mélissa.
Bonjour. Mélissa, vous connaissez la télévision. On démarre évidemment CNews Média par habitude par les audiences télé de la veille.
Oui, et c'est France 3 qui s'est imposée hier dans le tableau médiamétrie des audiences. 4 100 000 fidèles comptabilisés devant la série policière Sophie Cross. Ça représente 18,6% du public. Sur la deuxième marche du podium, c'est TF1 et Koh-Lanta. La suite de la saison All-Star a attiré un peu plus de 4 millions de fans, soit 19,5% du public. C'est à peu près le même score que celui atteint la semaine passée. Et puis, c'est un échec pour France 2 qui proposait la Fête de la Liberté. C'est un concert produit par Christophe de Chavannes et présenté par Daphné Burki au Bataclan. Seulement 1,5 million de personnes réunies, soit 6,9% de part d'audience. Et même constat pour M6 qui s'effondre hier soir avec Sauver Lisa, cette mini-série avec Déborah François et Victoria Abril notamment, qui a fédéré seulement 1 100 000 curieux et 5% de part de marché.
De déception, on va dire. Donc.
Oui.
Bon. Vous êtes une grande consommatrice télé, vous êtes une productrice télé. Est-ce que vous consommez beaucoup de télé ou pas beaucoup?
Je produis plus que je regarde la télé, je la regarde beaucoup moins. Mais il y a des émissions comme La Grande Librairie, par exemple, que je ne rate jamais ou que j'enregistre parce que j'ai un grand plaisir à la regarder. Donc il y a quelques émissions.
De la thématique culturelle, on va dire, de
manière générale. Oui, ou c'est politique, je les trouve brillants. Je trouve qu'on a toujours. J'ai un résumé de l'actualité et j'ai des plateaux qui sont toujours d'une grande qualité.
Les magazines, je parlais tout à l'heure de magazines que vous avez incarnés sur M6, les magazines d'enquête, de reportage, que ce soit d'ailleurs sur M6 ou le service public.
Je les regarde peu. Alors je vais faire du replay comme on peut tous faire quand une thématique, un traitement m'intéresse davantage. Mais c'est vrai que je n'ai pas du tout le réflexe à 7h, 21h ou 20h30 de me mettre devant ce type d'émission en fait. C'est vrai que je suis passée à autre chose, donc je consomme autrement l'actualité.
En SVOD un petit peu ? Pardon ? En SVOD comme Netflix
Oui, voilà. Prime, ouais. Et puis les séries, comme tout le monde, qui nous passionnent et nous font aussi changer d'univers. C'est d'une grande qualité aujourd'hui. On a des plateformes remarquables de OCS, voilà.
De gros moyens de production qui font rêver, j'imagine, aussi une productrice
comme
vous.
Oui, mais vous avez vu là le succès de 10% qui a été salué. Ouais. Donc,
couronné.
Voilà, on arrive aussi avec...
Il y aura une suite bientôt.
Ouais, on espère.
On espère. On poursuit avec Cyril Hanouna, monsieur TPMP, C8, qui prépare une nouvelle émission avec un invité qui risque de faire parler un peu de lui.
Et ouais, l'animateur, vous le savez, compte peser pour la campagne électorale à venir. Eh bien, il va s'y atteler dès le jeudi 16 décembre prochain. Ce jour-là, il présentera Face à Baba, donc c'est une nouvelle émission de première partie de soirée.
Face à Baba, on le rappelle, c'est le titre.
C'est le titre de l'émission, tout à fait. Et dans cette émission, il va recevoir des personnalités qui font l'actualité de la semaine. Et alors pour la première, ce sera Éric Zemmour, celui qu'on annonce comme potentiel candidat à l'élection présidentielle. Et il faut noter que ce sera d'ailleurs peut-être sa première interview en tant que candidat, puisqu'on attend sa candidature potentiellement pour le 5 décembre et un meeting prévu au Zénith de Paris.
Mélissa, en 2013, vous produisiez un documentaire baptisé « Ils ont voté Front National »,
oui,
qui n'est pas si loin que ça. Quand vous voyez le score justement des candidats un peu nationalistes actuellement, qu'est-ce que ça vous inspire, quelques années après avoir réalisé ce doc?
Je m'étais posé beaucoup de questions à l'époque. Certains me décourageaient d'y aller en me disant que j'allais aussi rendre visible une majorité d'électeurs qui était dangereux pour le pays. Donc c'est vrai que je m'étais beaucoup interrogée. Je pense, comme pour n'importe quel sujet d'ailleurs, qu'il faut absolument... s'interroger sur les mécanismes, l'humanité aussi, les souffrances ou les épreuves diverses des hommes et des femmes qui en arrivent aussi à revendiquer ce vote-là. Et finalement, c'était beaucoup plus complexe que ça. Et on était rarement avec des personnes totalement convaincues d'un discours, d'une efficacité politique. On était davantage sur une frustration sur l'échiquier politique, de s'en remettre toujours à des promesses un peu illusoires qui viennent en effet rassurer les foyers.
De la gauche traditionnelle.
Ouais, et c'est un peu ce qu'on constate à chaque élection, quoi, avec ce spectre et ces mêmes sujets qui sont rebattus, qui finalement, j'en suis convaincue, ne sont pas les priorités des Français. Enfin, la sécurité, l'immigration, je veux bien, évidemment que ce sont des sujets importants. Mais je crois que c'est totalement biaisé en réalité sur ce qui nous concerne tous, à commencer par la protection des plus fragiles et puis surtout de relancer une économie digne de ce nom où chacun trouve sa place et un emploi, quoi.
C'est clair. On termine avec CNews qui a apporté son soutien à Christine Kelly.
Oui, ces menaces sont une atteinte intolérable à la liberté d'expression défendue par CNews et sa rédaction. C'est ce qu'on a pu lire hier soir dans le communiqué de la chaîne du groupe Canal+. En fait, elle tire la sonnette d'alarme après les menaces de mort reçues par sa présentatrice, hein, Christine Kelly, qui présente Face à l'info tous les soirs sur la chaîne d'information. Elle a été victime, effectivement, de menaces. Elle les avait dénoncées la semaine dernière en écrivant « La volonté de me voir décapité, la détermination de me les envoyer par mail ne changera rien aux idées des uns et des autres. Chacun reste libre, avec ou sans moi. » Voilà. C'est ce qu'elle avait déclaré.
Il y a plus de 10 ans, quand vous étiez à la tête d'émission, vous aviez ce deux types de menaces d'environnement totalement anxiogènes.
Non, je ne savais pas d'ailleurs. J'apprends là ce que vous êtes en train d'annoncer. Donc j'ai, en plus de l'amitié pour Christine Kelly, que je connais bien, avec qui j'ai travaillé à LCI. Mais c'est aussi ce qui me protège un peu, moi, d'être passée dans l'ombre et derrière en initiant des films. C'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et cette vindicte populaire qui continue.
Est-ce que c'est justement pour ça que vous n'êtes pas sur Twitter, notamment ?
Oui, je pense que ce serait... Enfin, je perdrais et mon temps, je ne serais pas efficace et utile. Alors, j'ai une collaboratrice là, qui essaie quand même de nous positionner, d'avoir... Il y a un compte 416 qui peut rendre visible aussi nos productions, mais je ne sais absolument pas m'en servir et je m'en porte mieux.
Même pour vous informer, parce que ça peut être un bon outil d'information.
Vous avez vu qu'ils sont repris. Enfin, j'en ai connaissance.
Des
tweets importants, entre guillemets.
Oui.
Et donc, vous protégez, j'imagine, aussi vos enfants des réseaux sociaux aujourd'hui ?
Ben, j'essaie, évidemment. Oui.
Pas facile.
Ils n'en ont pas. Et puis, ils ont pas l'âge, mais j'ai un ado, 13 ans, qui commence à avoir très envie d'avoir des réseaux. Et on y est opposé pour l'instant. Donc, on essaie de résister. Après, ça fait partie aussi d'un mode de fonctionnement, d'échange, de sociabilité entre jeunes. Donc, il faut trouver toujours l'équilibre entre ne pas les isoler complètement et regarder absolument, avoir un œil aussi sur ce qu'ils font, quoi.
Les parents veillent.
Ouais.
Merci Sarah, et on poursuit tout de suite avec l'interview du Buzz Télé avec Mélissa Thoriau. Et Paris des vivantes, hein, donc c'est le titre du documentaire en prime time ce soir sur LCP, je rappelle la chaîne de l'Assemblée nationale. Pourquoi avoir décidé de consacrer un sujet à... On parlait des violences... faites aux femmes, je disais plus de 10%, en effet, et c'est des chiffres qui ont plutôt continué à augmenter du fait, en effet, de la période de confinement, en effet, où certains couples se sont retrouvés, les familles enfermées les uns sur les autres, qui n'avaient pas forcément l'habitude de vivre entre eux. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée au départ, ne serait-ce que le titre d'ailleurs, « Réparer les vivantes », en creux, on se dit « Réparer les morts », c'est terrible par rapport au nombre de féminicides ou d'homicides, hein, parce que ce n'est pas compté dans les 10% dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée au départ de s'intéresser à cette association ?
Oui, c'est 10% de plaintes enregistrées en plus, je crois, puisque c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Je vous disais qu'il y avait des protocoles comme ceux développés par Women Safe qui me semblent importants de valoriser aujourd'hui, avec cette libération de la parole dont on parle beaucoup. Il faut aussi maintenant savoir ce qu'il y a en face, quelle écoute et quelle action on mène pour recueillir cette parole et dignement accompagner des femmes qui viennent déposer dans un épuisement total des fardeaux lourds qui vont réellement impacter tout au long de leur vie. Et ça impacte l'économie, la santé publique. C'est aussi ça qu'il faut voir. C'est le combat de visibilité que je mène, c'est de se dire on n'est pas uniquement sur donner de la parole à des femmes détruites. D'abord, il y a des parcours de reconstruction qui sont possibles. Moi, je vais chercher la lumière où il y en a et ces protocoles fonctionnent. Elles font un travail remarquable. Elles ont besoin de moyens. Il faudrait que Women Safe puisse exister dans sur tout le territoire, donc c'est aussi un peu en creux ce qu'on essaie de souligner. Et puis, il n'y a pas de fatalité. Moi, je pense réellement que bien accompagné, on peut aussi avoir droit à une vie plus sécurisante, de protéger ses enfants. Donc voilà, c'est ce qu'on avait envie aussi de valoriser avec la réalisatrice Florie Martin.
Est-ce qu'on peut vraiment, au bout du bout, les réparer ?
Moi, je crois qu'on peut s'alléger, on peut penser des plaies et on peut dignement avoir une vie remplie. Je m'en suis rendu compte en produisant Bouche cousue, qui est un film très important pour nous à 416 et pour moi sur le plan personnel. Et les enfants maltraités qui ont autant subi, on peut parler d'une déconstruction et de souffrance à vie. Et pour autant, un Thierry Beccaro ou une Céline Raphaël, qui est une ponte de Anecker, enfin je veux dire, il y a des parcours de réussite. Et on ne nie pas la souffrance qui, je pense, est à vie. Vous portez votre sac à dos et cette lourdeur à vie. Mais vous avez des moments et la capacité de pleine réussite. Évidemment que j'y crois.
Sarah, première réaction ou question?
Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine et j'ai une première question de Charlotte. Quels sont les autres thèmes qui vous animent et peut-être sur lesquels porteront vos prochains documentaires?
Alors, on est en train d'accompagner le tournage d'un film important qui est l'autre versant de ces victimes que vous découvrez dans Réparer les vivantes. Et c'est un film sur la prise en charge des auteurs. Et je crois vraiment qu'il faut absolument traiter les auteurs et pour cela les rendre visibles aussi dans d'abord un parcours peut-être de déni, puis de prise de conscience de leur parcours de souffrance aussi et de pourquoi les violences et de pourquoi on ne sort pas de ce cycle de violence. Donc ça, c'est un film important parce qu'on le fait sur 10 séances, là aussi, sur des gens qui sont précurseurs dans cette prise en charge et dans cette capacité d'accompagner ceux qui mènent ces stages.
Ouais.
Donc ça, c'est un film qui est vraiment presque, enfin, qui est en cours de tournage
et qui
me semble important et qui sera diffusé dans la case infrarouge sur France 2.
L'une des femmes qui témoigne dans le documentaire ce soir sur LCP explique qu'elle a souvent été traitée d'affabulatrice, de menteuse. Est-ce que c'est encore c'est terrible qu'on ait encore ce type de réaction aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'écoute aujourd'hui?
Tout, elle passe quand même aussi par cette difficulté à se rendre au commissariat ou à oser porter plainte parce qu'on avance. Moi, j'ai projeté ce documentaire face aux victimes et aux professionnels il y a quelques jours au ministère de la Santé, en compagnie d'Adrien Taquet et Elisabeth Moreno. C'était un grand moment d'écoute, d'échange, vraiment un moment fort. Et j'ai apprécié qu'une victime, parce que c'est rarement dit ça, ou entendu, même moi, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention, disait, moi, depuis tous mes parcours de violence, il y a un avant et un après sur comment je suis considérée en commissariat. Il y a encore quelques années, je n'étais pas crue. J'étais une menteuse et madame, il fallait plus de preuves, donc s'il vous plaît, rentrez chez vous. Et je ne dis pas que tout le monde est formé, mais on voit dans le film qu'il y a besoin de déconstruire les préjugés et que tous ces corps de métier, avocats, policiers, doivent être formés, c'est le cas. Et elle parlait aujourd'hui d'un respect d'un monsieur, d'un gendarme qui lui dit « Est-ce que vous voulez plutôt une femme pour recevoir votre plainte? Est-ce que vous serez plus à l'aise avec une femme plutôt qu'avec moi ?» Et qui a pris le temps et qui avait l'écoute et l'humanité pour recevoir cette plainte. Et ça, c'est important de le... Elle a eu le courage de le dire, je trouvais que c'était important qu'on l'entende.
Et est-ce qu'on forme justement assez aujourd'hui la police? Est-ce qu'il y a des formations spécifiques justement pour ce type de plainte?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que ces formations existent. Il faut juste maintenant, on a tous envie que ça aille beaucoup plus vite et qu'on n'ait plus une seule antenne en France où on ne soit pas capable de recevoir une plainte ou de la croire. Il y a une enquête après. En premier lieu, vous croyez une victime qui a le courage de venir déposer une plainte ou de se plaindre de violence en foyer. Donc ça... Vous savez bien, dans toute révolution, pour faire changer des mœurs, ça passe aussi par toute cette ébullition et cet tâtonnement. Moi, j'ai l'impression, et je fais partie quand même des optimistes, où ça bouge.
On progresse.
Et on progresse, ouais.
Sarah.
Oui, j'ai plusieurs internautes sur ce sujet qui me demandent comment on peut encore aller plus loin pour lutter contre les violences faites aux femmes.
Bah oui, c'est une
en
question
France
très vaste.
Dans le monde.
Il faudrait poser aussi cette question au ministre dont c'est réellement la charge et la responsabilité. Mais je pense que si ça commence, et c'est ce que Édouard Durand qui dirige la commission et qui reçoit lui énormément, là, puisqu'ils sont assaillis de plaintes, de témoignages d'enfants et d'adultes, beaucoup de quarantenaires qui parlent de leurs agressions sexuelles enfants. Le problème de non-protection, c'est aujourd'hui qu'on a un système, et c'est là où il faut avancer, judiciaire, où on continue de favoriser un partage de l'autorité parentale. On est toujours dans ce système-là, qui est celui du patriarcat, et de se dire qu'on ne sépare pas un enfant des deux parents. Et je pense que c'est aussi ça le grand problème aujourd'hui en France.
Oui.
Une femme qui veut protéger son enfant, elle doit pouvoir le dire, et souvent ne le dit pas parce qu'elle a peur qu'on lui retire son enfant, que celui-ci soit placé en foyer, ou qu'au contraire, il puisse toujours être en garde partagée avec un père, dont on craint les violences.
Ouais. C'est ce que craignait d'ailleurs Mohamed Bouafsi, qui est un enfant battu. Il l'a raconté dans une tribune et dans son livre.
Oui, tout à fait.
Qu'il avait peur de... Voilà, sa mère ne portait pas plainte contre son père violent à cause de ça.
Et c'est encore d'actualité.
Mmh. Ouais.
Donc, pour répondre à cette question, c'est un des premiers thèmes sur lesquels tous les juges et les moyens aussi de traiter des dossiers avec un peu plus de moyens et donc de temps... C'est très important qu'on progresse sur cette question-là. Un mari violent ne peut pas être un bon père, on ne le dira jamais assez. Stop, il n'y a plus besoin de... de réfléchir.
Des enfants, justement, l'association Women Safe recueille aussi des enfants, hein, qui sont finalement des témoins de ces drames.
Ben oui, elles se sont rendues compte, évidemment, qu'il y avait toujours des enfants avec ces femmes, pour la plupart du temps. Elles sont toutes mères. Et donc, ces enfants qu'on a longtemps décrits comme des enfants témoins, on sait tous aujourd'hui qu'on est sur des enfants victimes, évidemment.
Il y a un parcours spécifique pour eux, justement, dans cette association ?
Oui, il y a un parcours spécifique pour des mineurs, y compris qui viennent de l'ASE et qui sont donc des enfants placés, qui peuvent eux seuls aussi avoir accès à ces soins-là. Et puis, il y a les enfants de ces femmes violentées qui subissent également ce traumatisme de la violence à la maison, ces violences intrafamiliales. Et elles se rendent compte d'une chose qui, évidemment, il faut qu'on s'en rende évidemment tous compte, c'est que plus on prend le mal au départ de ce trauma, moins on aura un parcours à répétition, je le disais, sur le plan économique ou de la santé publique, mais plus on aura des enfants qui deviendront des jeunes adultes en capacité de mener leur propre vie de façon sereine.
Et justement, il y a des femmes qui sont revenues plusieurs fois déjà dans ce centre d'accueil ou pas ?
Ah oui, c'est souvent...
C'est répétitif.
Non, ce que je veux dire, c'est pas, il n'y a pas qu'une séance qui miraculeusement...
Non, j'entends bien, mais je veux dire que la violence était à nouveau revenue dans le foyer et est obligée à nouveau de refaire ce parcours, en effet,
d'accompagnement. Oui, alors, c'est souvent des victimes qui ont eu plusieurs violences. Souvent, je ne dis pas toutes, mais qui ont pu subir de la violence enfant, qui ont eu de la violence au travail, enfin, qui ont pu connaître de différents traumatismes. Donc, il y a aussi tout ça qui vous fragilise et qui vous rend dans une immense insécurité. Et c'est ce qui fait que ça va se répercuter, en fait, toute votre vie. Ça, c'est une grande majorité des femmes qui sont victimes, ouais.
Sarah.
J'ai une question sur les coulisses. Marie qui se demande comment vous avez obtenu les autorisations de tournage, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué même pour les victimes de témoigner face caméra. Alors, vous n'entrez pas toujours dans les bureaux où témoignent ces femmes. Hein. Ça, faut le dire à Marie qui n'a pas vu le doc encore. Mais
Oui, elle s'en rendra compte. On a respecté chacune des victimes. Ouais. On a été très surprise avec Florie, puisque notre première intention était de valoriser le travail des professionnels. Qu'on comprenne ce que je disais, comment on reçoit ces plaintes et ces épreuves et comment on les accompagne. Donc, de fait, il ne s'agissait pas du tout de rendre visibles des victimes qui ont déjà un courage immense que de pousser ces portes-là. Donc, beaucoup sont préservés, les prénoms ont été changés, et ça n'enlève en rien la force du témoignage, d'ailleurs. Et on a été surprise, et ça, c'est aussi symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça bouge avec la nouvelle génération. On a plusieurs jeunes femmes, victimes d'agressions sexuelles, sur des histoires où il n'y a pas prescription, d'ailleurs, encore, qui, elles, nous ont dit, mais moi, je ne veux pas être cachée, enfin, moi, je veux apparaître, voilà, mon prénom, mon histoire et mon âge, et j'assume, et oui, je veux avancer dans ce parcours de réparation. Ça, c'est très fort, ouais. Et ça veut aussi dire qu'on a une génération où on parle souvent... on l'a beaucoup entendu, la formule de honte qui changeait de camp, mais là, c'était assez concret de se dire, bah oui, je suis victime, je n'ai pas du tout à me cacher de ce que j'ai vécu, et je veux vaincre ce mal-là pour réussir à vivre normalement, quoi.
Vous disiez tout à l'heure, ce serait bien que Women Safe, il y en ait un peu partout en France. Comment on finance de ce type d'association ?
Région, des aides de ceux qui sont impliqués politiquement quand même et qui apportent, département, région, et puis évidemment des entreprises partenaires qui sont une grande partie aussi des fonds.
Et Women Safe arrive à faire face concrètement aujourd'hui, j'imagine, par rapport aux demandes qui ne cessent d'augmenter ?
Pas suffisamment. Elle reçoit, elle travaille H24, puisque vous pouvez vraiment pousser la porte de cette association tous les jours. Mais nous, on se dit, c'est tellement fragile. Est-ce qu'à un moment, l'épuisement aussi des professionnels ne viendra pas à bout de tant de dévouement aussi et de temps donné ? Donc, il faut vraiment que ces moyens-là soient à la hauteur de l'enjeu national, qui est celui-ci, dans la prise en charge. Là, il y a Evian qui monte une antenne. Donc, l'SMH est en train de se créer. Et une autre en Corse, où on connaît là aussi l'ampleur de violence, notamment suite à tous les confinements qu'on a connus.
Sarah ?
Oui, alors j'ai plusieurs internautes qui me demandent, dont Charles, quand est-ce que Au Tableau va revenir ? C'est vrai que ça fait longtemps. Et il demande aussi pourquoi ce n'est pas revenu là au cours de ces dernières années.
On rappelle, Au Tableau, c'était des personnalités politiques, hein, en effet, et des artistes qui répondaient aux questions d'une classe.
Oui, tout à fait. On a beaucoup de plaisir avec Caroline Delage à produire, accompagner et faire exister ce programme. On a volontairement, toutes les deux, souhaité faire une pause pour revenir sur cet enjeu politique majeur qui était la présidentielle. Je crois que c'est l'ADN et le cœur de l'intérêt de ce programme. On a reçu des personnalités, et moi j'ai eu un plaisir fou à recevoir des personnalités comme Bernard Tapie, Anne Sinclair, Xavier Niel, des personnalités de la société civile qui sont passionnantes aussi et qui ont passionné les enfants. Ensuite, il me semble qu'on a reçu des personnalités très fortes et qu'à un moment... Pour pas devenir l'émission de plus qui reçoit des chanteurs et des acteurs et qu'on retrouve sur d'autres plateaux, il faut qu'on garde ce gage de rareté et puis d'intérêt d'être déstabilisé par des questions naïves et spontanées des enfants. Mmh. Et voilà, le cœur du sujet, c'est la présidentielle et c'est les candidats qui seront donc les cinq principaux dans quelques semaines, enfin quelques mois.
Donc rendez-vous.
Rendez-vous en mars sur Canal+, avec Au Tableau, et j'aurai hâte.
À Canal+, plus C8.
Canal+, sur Canal.
D'accord.
Une information.
En clair. Tout le monde pourra y accéder au même titre.
On parlait des enfants. Vous avez confié récemment ne pas avoir du tout aimé être une enfant et une ado.
Oui, bon, c'était un peu fort, peut-être. Je ne sais plus quelle était la question
vous
et comment elle a été posée.
Ou...
Non, mais parce que les reprises sont toujours très réductrices, comme s'il y avait... Des grands traumatismes de l'enfance. Non, je disais que j'avais peu de souvenirs parce que souvent on me questionne sur des souvenirs d'enfants et d'adolescence et c'est vrai que j'ai occulté cette période. Bon, c'est pas ce que j'ai préféré. J'ai préféré vieillir, grandir. C'est vrai. Bon, et je célèbre la vie. Bah oui, moi j'ai 43 ans et je suis bien plus heureuse que je ne l'étais à 17 ans, quoi.
Et le fait de ne plus voir votre visage à la télé, sur le petit écran, ça ne vous manque pas ?
Non.
Vous êtes passé de l'autre côté ?
Ça ne manque à personne, je crois. Et je me réalise vraiment dans cette liberté que j'ai choisie, c'est-à-dire d'initier réellement de A à Z un projet et d'en maîtriser l'intention. Qu'est-ce que c'est précieux ? Donc ça vous donne une énergie chaque matin, même sur des sujets difficiles, parce qu'il y a des moments durs pour aller convaincre... des diffuseurs, des personnes
beaucoup,
de vous suivre.
On peut le dire, résume, c'est difficile à résumer, mais un peu sur des enjeux et des sujets de sociétaux d'une manière générale.
On a ce fil de la protection de l'enfance qui guide quand même beaucoup de nos films, je dois le dire. Et un film en appelle toujours un autre. Donc je suis vraiment impliquée dans ce combat qui me semble le premier des combats à mener. Bon, et ça c'est aussi une certitude sur le plan personnel. Mais il y a aussi d'autres films... Enfin, plus léger et plus important aussi à mener, qui font partie de notre filmographie et de nos combats à 416.
On parlait de projet. En 2014, vous aviez acheté les droits du livre Anne-Marlène Schiappa, pas plus de 4 heures de sommeil. Hein. C'était pour une adaptation au cinéma. Vous aviez dit à l'époque, vous en êtes où aujourd'hui ? Ce projet a été resté dans un carton, vous êtes passé à autre chose ?
C'est un peu au point mort. On s'est beaucoup battu pour essayer d'en faire un film, un unitaire. Et puis...
C'est quoi la principale difficulté dans la réalisation de ce projet ?
En fait, elle est brillante en tant qu'autrice. Et donc, c'est des livres qui sont toujours très, très agréables, très modernes et contemporains et intéressants dans ce qu'ils soulèvent. Mais c'est beaucoup de sujets en un. C'est plein de sujets et plein de portes qui s'ouvrent. Aujourd'hui, un distributeur ou un diffuseur, surtout sur la fiction, qui n'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est... on s'empare d'un personnage et d'une trajectoire... Et on suit cette histoire-là. Ce n'est pas du tout comme ça que nous avons écrit et adapté ce livre, et c'est peut-être aussi sa principale difficulté pour faire exister le projet.
Trop de sujets dans un même projet, finalement.
Ouais. Ouais.
Une dernière question, Sarah.
Une dernière question, alors toujours sur Au Tableau. J'ai Séverine qui rêve que sa fille participe à l'émission dans la classe, qu'elle fasse partie des enfants de la classe. Comment ça se passe, le casting, demande-t-elle ?
Comment on postule, donc ?
Là, il est peut-être déjà bouclé pour le prochain numéro à venir, mais pour ceux encore futurs ?
Non, on est en cours. D'abord, tout n'est pas bouclé. C'est Laure Moussy, chez nous, qui fait un travail remarquable et qui est casteuse. Enfin, on appelle ça casteuse, mais c'est une réalisatrice aussi. Mais c'est elle qui a ce talent d'aller aussi chercher cette diversité d'enfants. Nous, on tient avec Caroline à avoir vraiment une classe qui soit représentative des électeurs aussi, c'est-à-dire d'avoir tous les milieux, ruraux, urbains, privilégiés, populaires, défavorisés, porteurs de handicap. Enfin, c'est important pour nous que cette classe puisse représenter aussi ce qu'est la France et avoir en ça une variété de curiosités, de questions qu'on va cueillir et qui seront évidemment obligées de toucher ou déstabiliser le politique en face.
Donc, si on veut postuler pour répondre, il faut vous écrire.
Oui, il y a le site à 416 et je pense qu'il y a toutes les. Elle trouvera facilement comment répondre et envoyer une petite vidéo de son enfant. Ce n'est pas les parents. Hein. Dès qu'il y a des parents derrière qui ont envie que l'enfant, en général, ce ne sont pas des enfants qu'on retient. Je le dis.
Ouais.
Ce qui nous tient à cœur, et c'est le succès de l'émission, c'est qu'on a des enfants qui sont toujours très étonnants, qui ont une immense curiosité, qui ont plein de questions et qui déstabilisent même leurs parents, hein, qui peinent à leur répondre. Ce sont ces enfants-là qu'on essaie de chercher partout.
Ce n'est pas une émission de Jacques Martin.
Non, bah, c'était chouette aussi dans leur spontanéité.
Mais on voyait beaucoup les parents mis en scène.
Mais on était plus sur la fibre artistique, ouais, donc ouais. C'est vrai que ce n'est pas l'objet de tableau.
Allez, on reste encore quelques minutes ensemble pour notre dernière rubrique en toute franchise. Le principe est simple, hein, Mélissa, c'est de répondre avec le plus de sincérité possible, comme vous l'avez fait jusqu'ici. Le plus beau souvenir de votre carrière. Il faut choisir.
J'en ai eu beaucoup quand même. J'ai eu des très très beaux moments, que ce soit sur Zone Interdite ou LCI. Mais je dirais ma rencontre avec Thierry Gilardi, parce qu'on a eu une très belle amitié, une belle complicité. Et à l'heure où on parle beaucoup d'hommes, de femmes, de sexisme et de rapports un peu déséquilibrés, moi j'ai eu une chance folle de tomber toujours sur des hommes dans ce métier qui m'ont porté, inspiré, accompagné, protégé aussi. Donc,
des seigneurs.
Pardon ?
Des seigneurs, comme on dit.
Bah, en tout cas, des hommes quoi, qui sont dans un rapport d'égalité avec les femmes qui font ce métier. Donc c'est bien de le dire aussi quand on a eu cette chance.
Quel est votre pire souvenir, maintenant ?
Mon pire souvenir... J'ai eu des souvenirs qui sont de l'ordre du... qui vous hantent un peu sur le terrain, parce que j'ai aussi... J'ai eu quelques années de terrain qui m'ont aussi beaucoup formée. Donc j'ai des souvenirs au Darfour... avec une pauvreté, une détresse et des mamans qui vont enterrer leur nouveau-né à même la terre. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça aussi qui sont terrifiants, qui font partie d'une réalité qu'on ne doit pas oublier. Donc, je dirais plutôt, c'est pas du mauvais souvenir.
Oui, oui, non, mais c'est un souvenir fort.
Marquant. C'est un souvenir fort et marquant.
Ouais.
Est-ce que vous avez une manie, un tic, voire un toc quand vous entrez sur un plateau aujourd'hui quand vous faites un tournage ?
Non. Non. Aucun.
Aucun tic ?
Non. Enfin, je ne crois pas. Peut-être que d'autres vous diront oui, mais je ne crois pas, non.
On ne va pas interroger votre famille.
Non, non, mais je n'en ai pas, je crois.
Ça si va. Vous n'aviez pas été journaliste, quel métier auriez-vous exercé ?
Alors, figurez-vous que moi, je voulais être juge des enfants au départ. Ça a été vraiment la... Quand on dit vocation, mais aux âges...
Pourquoi vous bouclez un peu la boucle d'une certaine manière, du coup ?
Ben, peut-être.
Non ?
Je n'ai pas entamé de travail, mais je vous dis ça. Mais j'ai une telle admiration pour ceux qui choisissent ce métier qui est si difficile. On a souhaité rendre visible le travail remarquable d'Edouard Durand en tant que juge des enfants. Mais c'est si dur, c'est si dur. Je me dis, de faire ce métier-là, d'ailleurs, heureusement que finalement j'en fais un autre, parce que ça doit être terrible de décider de l'avenir et de la sécurité d'un enfant aujourd'hui.
Si vous aviez la possibilité de faire renaître une seule personne célèbre, ce serait qui ?
Renaître ?
Oui, faire renaître une personne célèbre qui est évidemment donc décédée aujourd'hui, faire revivre.
Ce sont intéressantes vos questions. Ah ouais, c'est intéressant. Oh non, mais non. Je pense plus à des... Oui, oui, bien sûr. Mais dans ce cas, je pense à des auteurs, à Camus, par exemple, à des discussions comme ça qui auraient été tellement éclairantes, nourrissantes. Il y a d'autres auteurs aujourd'hui qui sont en vie et qui sont fantastiques à rencontrer. Mais voilà, Camus était le voisin de mes grands-parents paternels à Oran. C'est drôle quand même, non ? Ils étaient voisins de palier. Alors, je le cite aussi parce que j'ai toujours eu ces petites histoires de quand même, on était...
Voisins.
Oui, c'est ça. En tout cas, ma famille, mon père, petit garçon, croisait Camus tous les matins, quoi.
Vous avez quand même de bons souvenirs d'enfance.
Oui, j'ai les souvenirs des récits de mes parents, bien sûr.
Alors, l'élection présidentielle se tient dans quelques mois. Imaginons que vous êtes élu chef de l'État. Quelle est la première mesure que vous prenez pour les Français ?
Oui, alors je ne me souhaite pas du tout ce sacre
poste.
Et cette responsabilité. Mais la première, je pense que je nommerai Christophe Robert, qui dirige la Fondation Abbé Pierre, ministre du Logement. Ça commence aussi par avoir des personnes au bon poste.
Une nomination, bah oui.
Ouais.
Et, les mains dans le cambouis.
Il ferait le boulot et il exigerait... Enfin, je ne sais pas, je me dis qu'aussi... Voilà, et puis je rendrai régalienne cette fonction fondamentale qui est un secrétaire réa d'État aujourd'hui, qui est la protection de l'enfance. Parce que qui dit ministère dit aussi d'autres moyens d'action, de levier, de moyens, de contrôle aussi sur toutes les structures d'accueil des enfants. Donc voilà.
Il y a un peu de boulot.
Oui, mais c'est concret en même temps.
Oui,
c'est
oui,
des choses qui pourraient arriver.
Quelle est votre plus grande phobie ?
De quoi j'ai vraiment peur ? J'ai pas beaucoup de faux. Enfin, j'ai pas. De quoi j'ai peur ? Oui, j'en sais rien. J'ai pas de phobie, je crois.
C'est bien. pas les araignées.
Oui, j'aime pas ça. Mais de l'ordre du blocage, oui, je prends. Non, j'ai pas peur du vide, je prends des ascenseurs, les animaux me font pas peur, je sais pas.
Et qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère et votre apparence physique ?
Voilà. En psychothérapie. Qu'est-ce qui me déplaît le plus ?
Oui.
Bah, plein de choses, donc du coup, j'ai pas forcément envie de toutes les citer, mais.
Dans votre caractère ?
Oui, merci. L'indécision.
Vous hésitez souvent ?
Ouais. J'adorerais être beaucoup plus... Enfin, j'admire ceux qui savent tout de suite, évidemment, ce qui leur convient, ce qu'il faut faire, et puis ne se retournent pas sur leur choix, quoi. Donc, je dirais ça, l'indécision.
Et il finit avec une note de musique légère. La chanson que vous écoutez en boucle aujourd'hui, s'il y en a une.
Alors, en ce moment, on est sur quoi ? Parce que moi, je suis très guidée par mes enfants aussi, même si...
familial, donc.
Ouais. Sur quoi on est en ce moment ? Non, mais on est sur Freddie Mercury à fond. Donc je dirais que on est sur tout Queen qui nous met du baume au cœur le matin. Mais Juliette Armanet, pour être sur des contemporaines que j'écoute plus moi que les enfants d'ailleurs. Donc Brûler le feu, son dernier album qui fait beaucoup de bien. Donc c'est elle que je citerai.
Merci Mélissa Thériault, merci d'être venue dans le Buzz Télé. Je rappelle donc dès ce soir, en prime time, sur LCP.
Qui nous font confiance quand même en plein confinement, sur des sujets pas évidents, avec des masques, en plein Covid. Et le courage et la confiance d'une chaîne comme LCP, où il y a une grande qualité de documentaire, j'en dis un mot parce que c'est très appréciable pour des producteurs comme nous.
Ça s'appelle « Réparer les vivantes », donc c'est à suivre dès ce soir en prime sur LCP. Et demain, nous avons un nouvel invité.
Oui, une personnalité qui est aussi passée de la lumière à l'ombre, en quelque sorte, si on peut dire. C'est Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, qui sera avec nous demain.
On parlera un peu d'infos et de débats, j'imagine, politiques. Ouais, merci encore à vous.
On va l'écouter.
Et très bonne journée.
Merci, vous aussi.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable ! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.